Il dit pas, hein, il s'en va.
C'est ça. J'ai un petit débat éthique pour vous.
Débat éthique.
Ce matin. Ouais. Vous allez être invité, évidemment, à nous donner votre avis par texto 25226. Puis je suis curieux d'entendre ce que mes amis autour de la table ont à dire là-dessus. On a porté à mon attention une publication Facebook sur le fameux groupe Spotted Levy. Les fameux groupes Spotted, là.
Surtout à Lévis, ils s'en passent des affaires.
Ben, les groupes Spotted, en général, qui servent à genre, on a trouvé un cellulaire sur l'avenue Bastien. Y a la fille qui était à la plage Jacques-Cartier la semaine passée avec un maillot noir. Tu sais, ce genre d'affaires-là. Là, mm-hmm. Pour retrouver des affaires ou des gens. C'est plus souvent qu'autrement, c'est ça. Sauf que la publication se lit comme suit. Spotted à vous, pauvre propriétaire irresponsable d'un magnifique labrador noir près du centre de ski de Lauzon, qui ne joue jamais avec lui, qui le laisse japper sans cesse à la seconde où il met le nez dehors. Tu ne prends jamais de marche avec, tu ne le dépenses jamais, tu n'as aucun respect pour tes voisins, ni même pour ton animal. Ça m'arrache le cœur de l'entendre. Tu aurais dû t'acheter un toutou. Rends-lui service, rends-le heureux dans une famille où il sera traité comme un membre de la famille, où on s'occupera adéquatement de lui et où tous ses besoins seront comblés. Donc, on comprend que ça fait référence à un voisin qui est écœuré d'entendre le chien de son voisin japper, mm-hmm. et qui a, on présume, pris le temps d'observer suffisamment pour tirer des conclusions sur la façon dont la personne s'occupait du chien. Évidemment, dans les commentaires, la mère de pogné, c'est bien sûr, ben, vous comprenez. Évidemment. Mais il y a des gens qui disent, maudit, ça se peut-tu le monde, à quel point il manque de respect, bon. Et l'autre moitié dit, non, moi je connais, ils en prennent bien soin de leur chien, mais qu'est-ce que tu veux, ils jappent. OK? Et la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est qu'il y a quand même un débat intéressant. D'abord, la première question, c'est qu'est-ce que vous feriez avec ça si c'était dans votre voisinage? Les trois choix qui m'apparaissent les plus logiques, c'est un, aller cogner à la porte puis essayer de dialoguer. Deux, porter plainte automatique à la SPA. Puis trois, endurer.
Ou quatre, j'appuie plus fort que le chien.
Mais ça, tu sais, ça se plie.
Mais ça règle pas
ça,
de problème.
Ça, c'est rien que le monde qui lui manque deux, trois bardeaux à la tête.
Ça se fait que l'ambulance arrive chez vous.
Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'ils viennent te chercher. Ouais. Puis qu'ils te mettent une espèce de manteau, que tes bras sont comme attachés ensemble par en arrière. Là.
Ouais.
C'est un jeu, c'est un jeu.
C'est un jeu, monsieur, c'est un jeu. Venez vous enfermer dans la chambre capitonnée, monsieur, c'est un jeu.
On fait des blagues.
Mais donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Dans le voisinage, un chien qui jappe constamment très fort. Et je vais apporter la précision pendant que vous nous envoyez des textos au 25226. C'est une situation qui se passe dans mon quartier. Le chien, dont il est question dans cette publication-là, je l'entends presque à tous les soirs. C'est pas mon voisin, c'est, je sais pas, 5, 6, 7 maisons plus loin, mais je l'entends.
Donc, pour le voisin, ça se peut vraiment que ça soit dérangeant.
C'est sûr que c'est insupportable. Mmh. Moi, sincèrement, dans ma situation, j'endure parce que le chien jappe, puis il garde...
Puis il est loin.
Il est loin, puis ça nous...
Ben,
on ça, s'entend
j'ai le même petit problème parce qu'il... Mais... Je l'entends souvent japper, là, mais...
On s'entend parler, nous autres. Ça nous dérange pas, sincèrement. Mais on est loin. Si c'était mon voisin immédiat, ça me fatiguerait. Ça me fatiguerait, mais je lui en parlerais, là, tu sais, à un moment donné. Ouais. Il y a beaucoup de gens, là, qui étaient... Ils parlaient vraiment, là, de... Là, SPA, automatique, pauvre chien,
non, pas automatique, là, mais c'est parce que la question que je me pose, c'est... Comment se fait que le propriétaire du chien s'est pas rendu compte que son chien jappe dès qu'il est dehors? Si tu as du respect pour tes voisins, sois dehors avec ton chien, probablement que ça va l'empêcher de japper, ou laisse-les pas dehors longtemps. Mais je comprends qu'il faut qu'il fasse ses besoins, là, mais laisse-les pas dehors longtemps s'il jappe.
J'apporte une autre précision qui est importante, parce que, dans le fond, on discute d'un enjeu, mais je veux pas qu'on fasse un peu comme moi-même hier, je reprochais à certaines personnes qui commentaient, c'est-à-dire qui commentaient sans vraiment être conscient de c'était quoi l'enjeu, là. Le chien jappe beaucoup. Donc, pour les voisins, ça peut être dérangeant. Moi, je suis passé par là à quelques reprises, là, proche du terrain de ces gens-là, parce qu'il se trouve qu'il y a un parc à côté, fait que tu marches dans le parc. Là. Le chien, il était peur.
Ah ouais.
Notez bien que je vous dis pas qu'il est dangereux. Je le sais pas s'il est dangereux ou pas. Je suis pas un expert canin. Mais moi, qui n'ai pas peur du tout des chiens, j'adore les chiens. Quand tu passes dans le parc, puis que le chien, il est deux pieds sur la clôture, puis qu'il jappe entre mon train et dents, il m'apparaît un peu épeurant et il m'apparaît d'un chien qui aurait peut-être plus tendance à être agressif qu'un chien qui est très joueur. Mais ça, c'est ma conclusion à moi. Sauf que d'un autre côté, dans un quartier résidentiel où les gens vivent, là, un chien qui fait peur à tout le monde, je m'imagine avoir des enfants, mettons, là, je serais pas bien.
Pour répondre à ta question initiale, à savoir qu'est-ce que vous, nous, tout le monde ferait dans cette situation-là. Moi, souvent, là, j'ai eu à intervenir par rapport à des voisins en appartement qui ont des gros chiens puis sont vraiment japeux aussitôt que les propriétaires sont pas là. Ça vient dérangeant parce que c'est sans fin, puis souvent, ben, quand les propriétaires sont pas là, c'est en fin de journée. Fait que sur l'heure où moi, je m'en vais me coucher et tout ça, la première chose à faire, c'est d'en parler. C'est de prendre ses pattes, d'aller en parler respectueusement parce que peut-être que le propriétaire du chien n'a même pas idée à quel point son chien peut japper quand il est pas là. Quand il est là, c'est une autre affaire. Fait que dans vie, là, moi, je plaide haut et fort. Quand tu as un problème, tu vas l'acheminer à la personne avec qui tu as un problème. Tu vas régler tes affaires de façon adulte, mais consciencieuse, puis directement à la source du problème. Ça serait la seule chose que je ferais. Après, je leur dirais pas, tu sais pas élever ton chien.
Tu prends quand même le risque, par contre, de tomber sur une personne.
Ben, si étant maudit, je trouverais la deuxième solution.
C'est ça. Tu sais pas sur qui tu vas tomber.
Non, mais ça a toujours été ça dans ma vie. Si j'ai un problème avec quelqu'un, la personne, c'est telle que je choisis pour adresser mon problème. Puis je vais le faire de façon polie, puis je le ferai pas devant tous les voisins, en moi, y allant quand je suis en beau maudit. Là. Si ouais. J'ai pas dormi depuis 6 jours, que je suis bien agressive parce que c'est chien jappe, ben non, j'irai pas régler mon problème à ce moment-là. Puis l'autre affaire, c'est là où j'ai un peu plus de difficulté, c'est le jugement de la personne. De commencer à dire, t'élèves pas bien ton chien, nan, t'es oui. pas dans les culottes de
t'as
cette
raison.
Personne-là, j'irai 100%. Jamais là.
100%.
Parce que la personne, si t'adresses ton problème, va commencer à réfléchir à une solution, puis ça se peut qu'elle trouve elle-même que c'est pas un bon propriétaire pour le chien. On sait pas.
Ouais, mais de toute façon, en commençant par la confrontation, tu t'assures de fermer tous les canaux de communication. Il y aura jamais
oui,
aucun moyen de jaser, d'essayer de comprendre puis de négocier. J'ai même vu des gens aller jusqu'à, attention, le terme exact, c'est kidnapping humanitaire.
Ben voyons.
Oh non, mais ça, c'est pour faire du pouce sur ce que tu dis. Moi, je te dis, je suis dans le quartier, le chien, je n'ai un peu peur, puis c'est vrai qu'il fait du bruit. Fait que, au niveau du bon voisinage, là, j'ai tendance à penser que là, le maître, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Mais dans l'autre bout du spectre, c'est-à-dire l'extrême de je porte un jugement rapidement, je suis convaincu que le maître, c'est un chien sale et autres, là. Kidnapping humanitaire, c'est un terme que j'ai lu sur Facebook. Non, ça, la personne faisait référence à. Elle disait, ma vétérinaire, elle a déjà fait ça parce qu'il y avait un chat qui était maltraité, il était maigre, puis elle l'a kidnappé parce qu'il était maltraité. Hé, hey, là, j'étais comme, mais t'es tombé sa nouille, là. Tu sais, qu'est-ce qui.
Ça devrait pas être dans. Tu n'es
c'est
pas
quoi,
sauveuse.
Non!
Non! Il y a d'autres solutions.
Mais j'ai une amie qui s'est fait kidnapper sur son chat de même.
Ah, ouais.
À Montréal.
Ah, bon, ben, kidnapping humanitaire. C'est là de la même, ça.
Oui, mais c'est parce qu'il y avait aussi, je pense, un petit problème de santé mentale.
Ouais.
Ah. Pis c'était pas du côté du chat.
Ouais,
c'est pas ça. À la personne de gérer ça. T'sais. Après, c'est les autorités. Puis si ça fonctionne pas, ton intervention, puis tu vois que ça fait juste mettre la merde ou t'sais, peu importe, ben après, tu t'en vas peut-être avec les policiers ou tu t'en vas avec l'SPA.
Mais c'est toujours difficile de composer avec des cas de même parce que c'est sûr qu'à première vue, puis tout te semble pointer vers le fait que le chien, il a pas ben d'attention, puis il a peut-être manqué un peu d'éducation aussi quelque part, ou peut-être qu'il a surtout pas assez de temps. Peut-être avec son maître, mais là, de l'autre côté, on n'est pas là. Mmh. Tu sais, c'est dur à dire. Tu sais, des fois, t'en as des. T'as toutes sortes de chiens.
Il y a des affaires que tu peux. Sincèrement, tu sais, je me fais un peu l'avocat du diable parce que je trouve que la discussion est très intéressante. Mais il y a quand même des moyens, même si t'es pas un expert, de distinguer des comportements d'un chien qui a tendance à être plus agressif que joueur. Là.
Ça, tout à fait.
Tu sais, un chien agressif, là, ça paraît quand même d'un comportement, là, tu sais. Tandis qu'un chien qui est juste très joueur puis qui jappe, me semble qu'on peut quand même distinguer l'un.
Normalement,
de
oui. Puis un labrador qui a l'air de faire peur, c'est pas tant normal, là.
T'sais. Ouais, c'est ça.
Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas un Rottweiler où il se lève, puis là, tu fais comme, oups, tu fais le saut de suite, là. Tu sais, ça reste un labrador, là.
C'est un beau principe aussi de se dire, ben, commençons par le dialogue. Mm-hmm. Mais dans la réalité, ça se passe comment dialoguer avec quelqu'un dont le chien est problématique?
C'est parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir, un, le cran, puis le tact pour faire ça de la bonne façon.
Et pour aller parler à personne, exact. Et pour recevoir les commentaires d'un voisin qui te parle de ton chien.
Parce que si le voisin réagit pas après ta rencontre avec lui, ben là, le chien continue à japper, continue à déranger, là, tu vas porter plainte. Il va-tu savoir de qui ça vient, la plainte, tu penses?
Exactement. C'est ce
alors,
que nous disait une auditrice par texto.
Si tu commences, tu sais, parce que si tu vas, tu portes plainte, mettons, je pense que mettons, appelle la ville, là, puis la ville va peut-être faire un suivi auprès du propriétaire du chien, mais tu vas rester anonyme. Il ne saura pas de qui ça vient. Évidemment, il va savoir que c'est quelqu'un du voisinage.
Oui, mais
sans savoir de qui ça vient.
Puis t'envoies un organisme qui est chargé de prendre en charge ce genre de cas-là. Tu sais, qui. Fait Encore là, moi, je serais du genre à parler aux voisins comme toi, Pascal, en premier. Surtout que je me dis, tes voisins, en général, t'es déjà salué, t'es déjà croisé, t'as déjà placoté peut-être un peu avec. Fait que ça se glisse une conversation. C'est pas nécessairement... Salut, je suis ton voisin, enchanté, ton Christ de chien, tu sais.
Ouais.
Tu comprends? Tu as déjà parlé, t'as peut-être déjà échangé les outils avec, je sais pas, t'as déjà placoté. C'est pas nécessairement le cas, mais par exemple, je prends l'exemple avec mon voisin. Moi, ce serait facile, là, de parler de n'importe quoi, là, tu sais, parce qu'on placote, là, tu sais.
Mais en même temps, ça te tente pas pareil, hein? C'est même ben, si c'est un voisin avec qui tu t'entends bien. Là.
Mais mettons, il s'achète un nouveau chien. Il y en a des mon voisin des chiens qui sont bien corrects. Oui, mais mettons, il s'achète un nouveau chien, puis un gros chien peurant, puis il jappe tout le temps, puis peu importe. Moi, je serais capable d'y dire, parce que j'ai un bon lien avec ce voisin-là. Mais c'est un voisin qui a une tête ses épaules aussi. C'est un gars qui est... C'est que tu sais jamais sur qui tu peux tomber. C'est exact. Ça que je veux dire. Quand il y a le temps de parler de oui-oui, aller cogner à la porte et dialoguer...
Si le chien est enchaîné
à journée longue avec rien d'autre qu'un bol d'eau qui est changé une fois par semaine, là, ça te dit-tu un peu quelque chose sur le propriétaire aussi? Mmh, tu peux être craintif par rapport à ça, puis il faut respecter ça, tu sais.
Mais je pense qu'il faut que tu analyses, toi, dans quel état d'esprit tu es en premier pour pas mettre le drame où il devrait pas en avoir. Si tu es bien dans maudit cette journée-là, ou dans vie, là, tu sais que tu pas capable de gérer ça, trouve-toi une autre solution. Là. C'est comme dans tout, là, pas juste avec un chien. Là.
La morale de cette histoire, faut pas non plus tirer de conclusion trop hâtive. Peu importe c'est quoi le choix, que ce soit d'endurer, d'aller essayer de parler aux voisins ou d'essayer de contacter la SPA.
Ou tu laisses une lettre anonyme. Je viens de penser à ça.
T'écris un papier, tu peux porter ça.
Puis là, tu signes pas. En disant, ben garde, je vais l'avertir. Juste à être sûr qu'il soit bien au courant que tout le monde est pas mal tanné du chien, puis y aurait-tu moyen de faire quelque chose. Puis tu te dis, il va avoir le message, ça va être rendu poliment, mais ça me touchera peut-être pas personnellement si jamais ça se retournait contre moi.
Puis j'avoue que, mettons... Dernier texto, après ça, des petits fémérides pour vous autres, là, mais j'avoue qu'il y a quelqu'un qui me dit faut aller en parler aux voisins avant d'appeler un organisme. Les autorités pourraient forcer le propriétaire à se débarrasser de son chien alors qu'ils savent pas du tout l'ampleur du problème, comment ils s'en occupent. Dans les commentaires sur le Spotted Lévis, il y a des gens qui disaient c'est un bébé chien, ils l'ont pas depuis longtemps, fait que là, ils essaient de le dresser, mais c'est pas toujours facile. Fait que j'avoue que je pense pas que la SPA débarque, faut comme toi et ton chien out pis le
non,
pique,
non,
là.
Non, ça
m'étonne. Mais j'avoue que si t'es capable d'en parler avant, tu sais, mettez pas votre vie en danger, des affaires dans le même. Là. Mais mettons, là, tu fais car, regarde, je suis capable d'y parler à mon voisin, là. C'est sûr que c'est la meilleure première étape. T'sais, c'est sûr que c'est idéal, on va dire. Mais je comprends qu'il y a des gens qui veulent peut-être pas passer par là. Ben intéressant. Je continue de regarder les textos. J'ai pas le temps de tous les lire, là, mais je vais les lire après parce que c'est un débat qui a comme pas de bonne ou de mauvaise réponse, puis de bonne ou de mauvaise façon de fonctionner. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2021. Voici ce qui s'est passé un 22 juillet dans l'histoire.
Hey, Savais-tu ça, toi, chose?
Que le 22 juillet, ça faisait longtemps que j'avais pas remonté jusqu'à l'époque médiévale.
Jusqu'à un nom pas de bon sens?
Oui. Il y a un gars qui a été en 1099.
Yep. 1099.
En plein Moyen Âge.
Qui se rappelle de ça? Pour l'écrire et dire ça s'est passé.
Parchemins.
Pas moi, non, arrêtez de me regarder.
Godefroy de Bouillon est élu avoué du Saint-Sépulcre.
Pardon?
C'est quoi ça?
Godefroy de Bouillon, qui est le parrain, le mononcle de Francis Bouillon.
Oui,
voilà.
Come on. Mais il a été élu quelque chose, faudrait que tu nous décrives c'est quoi ça?
Avoué du Saint-Sépulcre.
C'est qui lui?
Ben, c'est un titre...
Mais il a avoué... C'est quoi le Saint-Sépulcre?
Ah, ben ça, c'est un titre de noblesse, là. Avoué du Saint-Sépulcre. Dans le fond,
il n'avait pas fait ça.
Le titre... Non, j'écoute, je le sais très bien.
En temps réel.
Le titre avoué du Saint-Sépulcre, là, ça, là, c'est un genre de titre qu'on donnait à l'époque, là, en 1099.
Ouvre les lignes,
là.
Paul, là.
C'est le titre d'avoué du Saint-Sépulcre. OK, c'est bon, Wikipédia vient d'ouvrir. Fut le seul qu'accepta le duc de Basse-Lotharingie, okay. Godefroy de Bouillon.
Ah, va être beau, merci.
Lorsqu'on lui offrit le trône de Jérusalem au lendemain de la prise de la ville en 1099 par les croisés.
Peut-être
drôle.
L'explication, la savoir avant la prochaine fois.
Mais
ça serait
c'est l'idéal.
Mais c'est parce que là, il faudrait que je vous fasse un exposé sur le droit féodal. Je ne suis pas sûr si ça vous tente. Là.
Pas beaucoup.
Dans le droit féodal, l'avoué est la personne chargée de la protection et de la représentation juridique d'une institution ecclésiastique. Et voilà.
Ah, okay. En exposé oral, il fallait que tu ailles préparer tes affaires avec deux, trois petites notes de temps en temps, puis tu le racontes.
Il y a mon beau garçon, je vais apporter une genre à biscuits. Là, à chaque fois, tu vas être préparé dans cette émission-là. Tu vas avoir un beau biscuit.
J'aimerais mieux, j'aimerais mieux un Big Mac, mais regarde, ça va être correct.
Ben, c'est une bonne façon pour qu'il perde du poids.
1629. Ouais, j'en aurais jamais un torieux de biscuit. C'est quoi cette maudite méthode de marde-là? 1629. Arrivée du premier noir au Canada. Olivier Lejeune est le premier noir du Canada.
Oh, ouais.
Et il arrive à Québec avec les frères Kirk.
C'est sûrement leur esclave.
Captain Kirk.
C'est le coach au baseball, toi, 1629, de toute façon. Oui. C'était-tu Kirk ou Kirk?
C'est Captain Kirk.
Parce que 1629, c'était des Star Français. Trek.
Mais ouais, arrivé sûrement pour l'esclavage.
Je sais pas, Lejeune, Olivier Lejeune.
Pas
non, j'ai pas son CV, ton vieux. J'ai-tu son CV ou gars? C'est le premier noir, c'est le fun.
Non, mais on est là, on est tout oui, on est intéressé à ce que tu dis.
Vous êtes intéressé. Allez, autant intéressé que dans mes cours de géo secondaire, toi, intéressé.
Mmh. Mais oui, c'est un
esclave. Il est en train de te donner une raison de pas avoir plus d'informations.
Non, mais ça doit être Kirk. Ouais. Je suis pas sûr que c'était Kirk.
Mais il aurait pas eu plus de biscuits avec celle-là.
Non.
1931.
Oh, quand même, là, on se rapproche.
Naissance de l'illustre. En Ontario, au Canada, en 1931. Illustre joueur de hockey sur glace.
1931, en
des Bruins de Boston.
Bobby Orr.
Non.
Raymond Bourque.
Non.
Ben non. En Ontario, des Bruins, Phil Esposito.
Non.
31, non, en 31.
Léo.
Komarov.
Gagné.
Léo Labine. Et jusqu'à aujourd'hui, je pensais que c'était un personnage mythique. Je pensais pas que c'était. J'entendais Léo Labine, je pensais pas que c'était un vrai joueur de hockey.
Mais vois-tu, ça m'a juste rappelé la touche des deux frères.
Je savais que c'était un vrai, mais tu dis qu'il est né en Ontario.
Oui.
Donc c'est Léo Labine.
C'est Léo Labine. Et les frères Kirk.
Oui, bien sûr.
Ça va très bien en passant. Ah ouais, merde, Alexis, j'ai oublié de te demander de sortir une cote de Méo. Maudite affaire. Tu veux encore un autre biscuit que j'aurais pas. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance.
Oui.
Du comédien Pierre Lebeau.
Pierre Lebeau.
Oh. Acteur québécois né à Montréal.
67 ans.
Exactement, Viz.
Ah oui, je l'ai vu dans la chronique de Pierre Gingras.
Ah, il était dans la chronique de Pierre Gingras. Ouais.
Je sais pas s'il est aussi méchant dans la vraie vie. Hein. Il est tellement bon.
Ben non,
mais ce que je veux dire, c'est qu'il est tellement bon dans ses rôles de méchant, de mécréant, de tout ce que tu voudras, qu'on dirait on y croit, là. Mm. Moi, dans ce temps-là, je me dis, coudonc, on doit être
méchant. Non, il est fin, je l'ai déjà rencontré une fois. Puis, ouais,
c'est
un maniaque d'hockey,
donc, c'est un excellent comédien.
Oui.
Mais il est dommage du monde où sont nés le 22 juillet, non?
Pourquoi?
Marie-Josée Taillefer, l'excellente.
Oui.
Deux auditeurs, dont François le fan de Kiss. Il dit l'anniversaire de ma sœur, 22 juillet 1795.
C'est sa sœur qui est née le 22 Sophie. Juillet, pas François.
Ah, de ma sœur, excuse-moi. Ben, c'est ça, mais c'est pas ça que j'ai dit.
T'as dit
mais
son anniversaire.
Ah non, c'est sa sœur, t'as raison.
Mais l'autre personne qui nous a écrit, c'est peut-être la sœur de François, là.
Oui, mais c'est né en 1795. Je peux pas croire qu'elle est capable d'envoyer un texto.
Bon, là. Daniel aussi veut se faire dire bonne fête. Bonne fête. Daniel.
Mais Daniel! Bon. 55 ans, bravo!
Je suis pas sûr que c'est 1795 puis c'est sa sœur, par exemple.
Bon, Gabriel aussi.
Il y a problème.
Qui marche pas. Fait qu'à 1954, la naissance de Pierre Lebeau. Félicitations, Pierre Lebeau, pour votre anniversaire.
Pierre Lebeau, c'est ironique quand même. Hein?
Pourquoi?
Bah.
Dis-le.
Non,
c'est tout. T'as voulu.
T'as commencé ta phrase.
T'as creusé un trou, tu vas te sacrer dedans.
Pas du tout. Non, mais regardez, moi, j'irai pas plus loin que ça. Là.
Petit.
J'ai juste trouvé que c'était ironique.
Peureux.
Petit. D'Alexis.
Il assume pas, hein.
Non, il essaye d'embarquer dans l'arène du bullying, mais ça marche pas.
Il y a pas de bullying, là. J'ai juste glissé ça subtilement. Si vous aviez été sympathique, vous auriez juste fait comme ah puis passé à d'autres choses.
Non, on n'a pas compris.
Parce que j'ai vécu un malaise, moi, Alexis.
Moi aussi, pourquoi? Ça m'a fait mal en dedans. Ouais. Moi, l'intimidation, je tolère pas ça.
Hey. Je l'aime, moi, Pierre Lebeau. Bon.
Moi aussi, je l'aime. On l'aime tous, Pierre Lebeau.
Toi, tu le méprises.
Je le méprise pas du tout. Je le trouve excellent.
Pas juste excellent, tu le trouves vraiment déjà?
Ironique.
Je le trouve ironique. Ah bon, 1981. C'est toutes des choses qui sont passées le 22 juillet.
Okay.
Les tavernes québécoises licenciées depuis 1979 doivent afficher un avis informant que les femmes sont maintenant autorisées dans les tavernes. Mm. Sauf? Oui, que celles qui sont ouvertes avant 1979 peuvent toujours refuser la gente féminine.
Mmh, clause grand-père.
Okay, comme un clause, qui, là?
C'est littéralement une clause grand-père. Mmh. Littéralement, parce que ça n'aurait pas venu une clause grand-mère, naturellement.
C'est peut-être de là que ça part, hein?
Probablement, je sais pas. Mais donc, en 1981, c'était le jour de l'obligation de mettre une petite feuille qui écrit « Femme autorisée entre ses murs ». sauf si vous aviez ouvert votre établissement.
On venait vous chercher, vous sortez d'ici.
Ouais,
on avait le droit.
C'était le bon temps. On finissait de travailler là, hein, avec les bonhommes. Hey. On allait se virer à l'envers, on revenait le souper était prêt.
Ben oui, ben
c'était-tu la belle époque? N'importe quoi.
Tu vois, quelqu'un a une explication. Il dit, c'est vrai que c'est ironique. Son nom, Pierre Lebeau, il a pas l'air d'une roche du tout. Donc, tu vois, tout est là-dedans. Je veux dire, il fallait juste que vous compreniez un peu plus vite. Là.
Extrêmement ironique. Bravo. Oui, bravo.
Non, mais c'est vrai.
Pour vrai, tu demanderas à ce personne. T'as son numéro de téléphone, cette personne-là?
Oui.
Tu lui feras un petit virement intérêt.
Un petit cadeau, là.
tu vireras un petit 20 piastres, quelque chose. Là.
Fallait juste comprendre, là. C'est vous autres, vous avez le cerveau mal tourné.
Ah, ouais, 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 ouais,
non, mais là, à un moment donné.
Oui,
hey.
Oui, oui, oui. 2004, 22 juillet, fusion de ces deux géants de l'industrie brassicole.
Brassicole.
Molson et O'Keefe.
Molson.
Non, 2004, c'était avant ça.
Molson.
Et O'Keefe.
Et.
Qui d'autre?
Je donne un indice, ça décorce. Hein?
La Corse Light.
La Corse, ça décorce. Alors, fusion, c'est ça en 2004 de Molson et Coors. Les brasseurs annoncent leur fusion par échange d'actions. Je sais pas ce que ça veut dire. Pour donner naissance au cinquième brasseur mondial en volume.
Ah ouais, cinquième.
Le Molson Coors Brewing Company. 2005, un an plus tard, la dernière voiture de cette lignée de Buick sort des lignes de montage le 22 juillet 2005. Elle était produite depuis 1959. C'était le Buick
Skylark.
Non.
Buick.
Je sais pas s'il faut le dire en français ou en anglais, sûrement
encore.
En anglais, mais le Sabre.
Le sabre.
Buick, le sabre.
Oh.
Dernier modèle en 2005. Ça veut dire qu'il y en a peut-être encore.
C'est pour ça que je m'en trouve pas.
Je cherchais Buick, le sabre 2019.
Ouais.
Ensuite de ça, deux éphémérides plates, mais dont il faut qu'on se souvienne. Puis à chaque fois qu'il y a des éphémérides de même, m'a dit, hey, ça fait-tu déjà 10 ans? C'est le cas des attaques meurtrières en Norvège. Souvenez de ça, le gars, c'était...
dans un parc.
Il y avait eu des explosions, des bombes qui avaient soufflé le cœur d'Oslo, qui est la capitale de la Norvège. Donc vraiment, comme ça s'était passé ici à Québec, là, dans le bout de la colline parlementaire, là, en après-midi, vers 3h30. Et pas longtemps après, un gars qui se présente comme un policier ouvre le feu. Il est sur une île, donc sur le coup, on comprenait pas ce qui se passait, mais ça avait soufflé vraiment ça avait explosé sur le continent. Puis sur l'île, où il se tenait un camp pour les enfants, organisé par le Parti travailliste, parce que le gars, c'est un intégriste chrétien. Et là, il s'est mis à ouvrir le feu sur le monde, habillé en policier. 92 personnes auraient péri dans l'attentat. 92! Vraiment, puis ça fait déjà 10 ans aujourd'hui de ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Et 2015, donc il y a 6 ans, le 22 juillet aussi, c'était le massacre de Charleston. C'était le massacre. L'auteur présumé là, de l'église de Charleston, il y a 9 personnes noires qui sont mortes. On a évidemment déterminé que c'était un crime raciste et il a été inculpé du crime. Le 22 juillet 2015, c'est ça l'affaire. Ça s'est passé en juin, la tuerie, là, mais le 22 juillet, on a déterminé que c'était officiellement accusé de crime raciste. Voilà, c'est ce qui s'est passé le 22 juillet dans l'histoire.
Il y aura un film sur le 22 juillet en Norvège, 22 juillet 2011. Ça serait 22 juillet, justement, le titre du film. Puis il paraît que c'est très, très bon.
OK. Ah ben écoute, j'étais pas au courant. On regardera ça, puis on fera une petite chronique cinéma. Mais, bien sûr, pour l'instant, on va faire une pause. Parce qu'au retour de la pause, on parle avec Jean-Michel Dufault. Jean-Michel Dufault, animateur télé, qui va animer une nouvelle émission de voyage à partir du mois d'août. Jean-Michel Dufault, je l'ai appris un peu en lisant des articles un peu sur lui. Je savais que c'était un gars qui avait voyagé, mais à ce point-là, j'avais manqué ce bout-là. C'est un gars qui a voyagé aux quatre coins de la planète, qui a l'un des passeports les plus remplis du showbiz québécois. Et son émission s'appelle « Dans le passeport 2 », justement, où il y aura des discussions de voyage, des souvenirs de voyage, des images, des photos avec toutes sortes d'intervenants. On parle avec Jean-Michel Dufault, qui est aussi un grand fan du Canadien.
Oui.
En passant, après la pause.
Si vous avez rien compris de ce qui vient de se passer, c'est normal. On va mettre les